Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52. Depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes. En l'occurrence, nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut les auditrices de Yes, ici Elsa et j'ai le plaisir de vous accueillir dans mon deuxième épisode bonus. Pour cet épisode, j'ai interviewé Dolores Vaquela, qui est journaliste et qui travaille sur la culture afro. Elle a d'ailleurs créé le blog L'Afro. Elle écrit aussi beaucoup sur le rap. Récemment, elle a écrit sur le mouvement Music 2 dans Mediapart, mais aussi sur la politique. J'ai voulu l'interroger sur la question des beautés noires pour comprendre comment on se construit en tant que femme noire en France. Quels sont les modèles auxquels on peut s'identifier alors que les magazines, films et séries sont remplis de femmes blanches? Quels sont les diktats spécifiques auxquels les femmes noires sont confrontées dans leurs relations amicales ou dans le travail? Je vous laisse écouter notre échange que j'ai trouvé très instructif et j'espère que vous aussi. Bonjour Dolores.
Salut Elsa.
Bah, merci d'être avec nous pour cet épisode bonus de Yes. En fait, cet épisode, donc, c'est un complément, entre guillemets, de notre épisode sur les diktats de beauté qu'on a publié il y a 2 semaines, dans lequel on a parlé, donc, d'épilation, maquillage, teinture de cheveux, ventre plat, l'image du corps parfait que les magazines, la télé ou le monde de la musique aussi, d'ailleurs, nous vend à longueur de journée et qui produit, donc, un certain nombre de diktats et d'injonctions. Et du coup, ce dont je voulais parler avec toi, c'est les diktats de beauté qui sont spécifiques aux femmes noires. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelles sont les injonctions liées à la beauté qu'on subit quand on est une femme noire ?
Oui, alors déjà, il y a un regard souvent fétichisant qui est posé sur les femmes en général, mais en particulier sur les femmes noires. Mmh. Ça, c'est évidemment des stigmates de la période esclavagiste et de la colonisation qui font que on est à la fois sujette à dégoût et en même temps à exotisation à l'extrême, voire à négrophilie. C'est-à-dire cette espèce d'attrait particulier pour des traits qui nous seraient particuliers. Donc ça passe par évidemment notre peau, son épaisseur, la taille de notre nez, sa forme, la forme de nos yeux, la texture de nos cheveux, les pommettes, leur saillance, puis évidemment après tout le corps, la grosseur des seins, la taille par rapport, la proportion par rapport à tout ça, évidemment les fesses, le fessier, les cuisses, enfin voilà, on est sexualisé, animalisé de haut en bas, et ça c'est vraiment très spécifique parce que on sait, on l'a entendu dans raconté ou dit par d'autres personnes féministes ou visibles comme par exemple Rokhaya Diallo et Grace Lee qui avaient dédié un épisode sur cette question-là de comment on peut animaliser les femmes qui sont pas blanches en les appelant les panthères, donc pour les femmes noires ce sont les panthères, les tigresses, avec tout l'imaginaire qui est associé au fait d'avoir une sexualité débordante qui correspondrait en fait à l'espace d'où on vient ou d'où viennent nos parents, c'est-à-dire le continent noir, donc l'Afrique, donc la jungle, la savane, etc., etc. Et tout ça, notre corps serait le reflet de cet habitus, de cet habitat sauvage, et donc nous, on serait forcément des félines, des assoiffées de sexe, des femmes à l'état le plus naturel possible. Et en vrai, ça, c'est une version hyper raciste et qui peut être très, très incommodante quand on essaye d'avoir des rapports qui soient amoureux, sentimentaux ou sexuels avec notamment des hommes cisgenres. Ouais.
Toi, c'est quelque chose que tu as subi dans ta vie personnelle, j'imagine. Est-ce que tu as des exemples de choses qui ont pu t'arriver, même au travail ou dans des rapports interpersonnels? Est-ce que voilà, il y a des gens qui t'ont appelé la panthère ou ce genre de choses, par exemple?
Oui. Et moi, ça m'est arrivé toute ma vie. Hein, je pense comme beaucoup de femmes et de femmes noires notamment. Évidemment, par exemple, j'y repensais l'autre fois. Je sais pas, je suis en vacances à l'ouest de la France. Je suis avec d'autres personnes qui sont blanches. On a le même âge et voilà, c'est l'âge où on est un peu ado, où on va à la piscine l'après-midi pendant que les parents font la sieste ou partent de leur côté à la plage. Et voilà, on rencontre des garçons qui ont à peu près notre âge. Dans le groupe de garçons, il y a un garçon noir et deux garçons blancs. Eh bien, moi, on m'assigne, parce qu'en plus, on n'est pas à l'âge où on a le droit de choisir avec qui on a envie, à qui on a envie de s'intéresser. Mmh. On est déjà choisi. Et donc, moi, on m'assigne d'office le garçon noir, hein, qui était par ailleurs très joli et tout. Mais voilà, on me l'assigne parce que forcément, on est obligé de se retrouver entre sauvageons, hein, quelque part. Donc, ça, c'était un peu… voilà. Et en plus de ça, il y avait un autre garçon donc, qui semblait très intéressé par moi. Et donc, l'autre garçon blanc qui était intéressé par moi, il l'était parce qu'il adorait la peau noire. Donc, son grand jeu, c'était « je te fais la bise parce que t'as une peau magnifique » et que… Et il se rendait pas compte à quel point j'étais mal à l'aise et que je trouvais ça hyper gênant. Et donc, évidemment… du coup, le garçon noir est devenu mon allié parce que même s'il pouvait pas comprendre ce que c'était qu'être une jeune femme, il comprenait parfaitement que son copain, il était très, très bizarre à mon encontre. Donc voilà, mais des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. Effectivement, dans un emploi où j'étais sous la supervision d'un chef de service qui devait notamment faire des comptes rendus sur ma progression professionnelle à d'autres personnes. Il n'a pas parlé de mon travail, mais il a dit « Moi, si j'avais rencontré Dolores dans la vie, dans une boîte de nuit, il a dit, eh bien, je l'aurais draguée. » Voilà. Donc, il y a tout l'imaginaire de la fête, en plus, comme j'écrivais beaucoup sur les cultures urbaines, forcément, la musique, etc., il y avait tout ce truc de forcément… on me voit dans un espace qui n'est pas forcément sérieux, on me voit dans un espace qui où en fait c'est la fête et on parle de mon supérieur, on parle pas d'un de mes collègues même si ça aurait été tout aussi déplacé, surtout quand on lui demandait en fait de faire un retour sur mes compétences et non pas sur ce qu'il projetait de moi en tant que personne. Donc voilà, et là aussi pareil, bah tu te sens sexualisée et tu sais très bien que c'est pas juste parce que t'es une femme, tu sais qu'il y a quelque chose qui a trait aussi avec la manière dont tu es perçue. Et clairement, dans son regard et dans la manière dont il parlait de moi, j'étais perçue comme une femme noire. Voilà.
Ok, donc du coup, c'est toujours un rapport exotisant, comme tu disais, et en fait déshumanisant, du coup, puisque tu n'es pas considérée pour qui tu es, mais pour ce que tu représentes à leurs yeux, avec leurs yeux de colons, qui n'ont pas encore, qui n'ont clairement pas déconstruit toutes ces représentations-là. Et du coup, j'imagine que ça doit être très compliqué quand on grandit en France et que justement, les couvertures de magazines et les films et les séries ne montrent que des femmes blanches. Comment tu te construis, toi, dans cet univers-là, j'imagine que ça devait être compliqué.
Alors moi, bizarrement, j'ai toujours été très 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 fière d'être qui j'étais. Enfin, on me l'a transmis, on m'a toujours dit de m'aimer telle que je suis. C'est pour ça que j'ai jamais envié les filles blanches et leurs cheveux lisses, parce que moi, ma mère, elle m'a toujours tressée, elle m'a toujours fait des coiffures incroyables, qui étaient trop belles, qui tenaient trop bien. Bon, à l'époque, c'était pas trop la mode, donc je me faisais plus tacler par mes consoeurs que par les autres. Mais il y a toujours eu cette idée que ma beauté, elle était particulière, elle était singulière et qu'elle était transmise de génération en génération. Et que du coup, tous les mercredis, j'avais hyper mal à la tête, mais on célébrait cette beauté-là qui m'était propre. Voilà. Et puis, bon, j'ai la chance d'avoir une mère que j'ai toujours trouvée magnifique et qui a toujours… c'était un modèle, quoi. Je veux dire, elle portait les rouges à lèvres sombres, Revlon. Elle sentait toujours bon. Elle avait des beaux ongles, des belles mains. Je dis « elle avait » parce que, bon, maintenant, elle a avancé en âge, quoi. Mais quand j'étais plus jeune et que je la regardais et qu'elle me regardait… je me disais bah waouh, je suis trop contente, j'ai trop envie de lui ressembler. Et elle est soignée, elle est hyper soignée, elle s'habillait trop bien. Enfin, elle avait des bêtes de chaussures. Ma mère, elle était juste hyper belle. Mmh. Et moi, j'avais juste hâte de grandir et d'être comme elle, de pouvoir mettre les mêmes rouges à lèvres. D'ailleurs, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai compris. J'ai compris grâce à elle. Ce qui pouvait bien m'aller, même si elle allait un peu plus claire que moi de peau, mais voilà, ça a été mon premier modèle et quelqu'un qui du coup m'a au contraire fait me dire mais waouh, en fait on est super belle et je suis super belle, elle me le dit. Et du coup je pense que j'ai pas eu, j'ai vécu évidemment du racisme et toutes ces trucs de fétichisation relou, mais de l'autre côté, en tout cas, on m'a élevée vraiment dans l'amour de moi, mais dans le sens dans l'estime de moi-même, quoi. D'une part, et d'autre part, en termes de modèles, du coup, bah moi, je les ai. C'est vrai que par contre, ça c'était un peu chiant, mais je les ai cherchés, ces modèles. Voilà, je me rappelle que je passais les dimanches après-midi à regarder les compétitions de patinage artistique, parce qu'on regardait ça chez moi. Et donc, je regardais Surya Bonaly, il y avait Marie-Josée Pérec, plus tard Christine Aron, avec ses cheveux courts qu'elle avait décolorés, Eunice Barber plus tard encore, les Américaines aussi, évidemment. Et après, dans la musique, moi, j'ai grandi à l'époque des top modèles, des super top. Et à l'époque, c'était Naomi Campbell. Puis on a eu Noémie Lenoir. J'avais comme ça un panel de figures qu'on voyait quand même à la télé et dans les magazines très populaires qu'il y avait chez moi. Plus tout ce qui était Star Club, etc. Où il y avait quand même, je me rappelle, des All Saints, où elles étaient quand même... Il y avait des Noirs. Mel B des Spice Girls, qui a été hyper importante, évidemment, dans ma construction identitaire dans tous les sens. Et surtout, quatrième, Skankanansi, qui m'a littéralement mais éblouie. C'est-à-dire, je me suis dit, on peut être une femme, on peut être toutes ces femmes-là que j'ai citées, et puis on peut être aussi cette femme-là qui est leader d'un groupe de rock qui a cartonné à la fin des années 90, cheveux courts, vénères, bisexuels. Voilà. Franchement, moi, ça a été un modèle. Et d'ailleurs, je l'ai rencontrée et c'était un peu décevant. Non, mais parce que j'étais trop impressionnée mais ça a été quelqu'un d'hyper marquant dans ma construction, dans plein de choses. Et du coup, très jeune, et puis évidemment, alors après, il y a eu le summum, parce qu'on parle pas des Queen Latifah, Alia, etc. Ouais. Mais moi, après, ça a été Lauryn Hill qui a achevé de me marquer en termes physiques. La nana, elle donnait des cours d'éducation sexuelle, elle a fait du cinéma très tôt. Elle était à la fois sexy, mais en même temps très dans l'éducation. Et là, ça a été OK. Je serai à l'aise avec moi à jamais si on a ce type de modèle-là, quoi. Donc, voilà.
Non, c'est sûr que notre génération, on avait quand même, avec le câble et avec toutes les personnes que tu as citées, c'était déjà un bon démarrage. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Est-ce que tu penses que c'est différent pour une jeune femme noire de grandir en France en 2020 par rapport au modèle qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de l'évolution par rapport à ça?
Moi, je pense que c'est plus facile parce que, les réseaux sociaux permettent aussi de populariser des figures. Par exemple, quelqu'un comme Rihanna, avec ce niveau de puissance médiatique, de puissance du cool, simplement parce que elle est chanteuse, mais elle est aussi entrepreneur, c'est aussi une fashionista, c'est une sociolite. Je veux dire, quand on la voit se balader avec son verre en sortant de chez Giorgio, là, son restaurant à LA, etc., on se rend bien compte que c'est devenu une figure mondiale qu'on... Enfin, moi, quand je bossais justement sur elle, entre autres, je veux dire, il n'y avait pas un jour où je faisais pas une note, une news sur Rihanna. Des figures et puis des figures qui correspondent aussi au public qui la suit et qui sont validées par tout le monde, même par le milieu du luxe. Donc évidemment, et qui en plus disent des choses. Ça, elles disent des choses. elles sont, il y a toujours eu des personnes qui ont été libres de dire des choses. Et moi, c'est comme ça que j'ai grandi aussi, hein, grâce à ces personnalités qui ont toujours ouvert leur bouche. Mais c'est vrai que maintenant, bah, la viralité, la possibilité de lire plus facilement des choses en anglais, d'avoir accès plus facilement à la culture, plus facilement à ce qui se passe partout dans le monde, décloisonne et aide aussi à ce qu'on, à ce que la parole circule plus. Mais il y a un revers à ça, évidemment. Bah, c'est en même temps la montée de plein de concepts très importants pour penser le monde et qui nous montrent qu'on n'est pas non plus sorti de l'auberge, type l'appropriation culturelle, type bah, toutes ces personnalités qui aussi font leur beurre en prenant, on va dire, les attraits, les attributs de personnes noires qu'on va, par exemple, je sais pas, à des personnes noires qu'on est très scolées, ça a été pendant des années les paysannes, les sauvageonnes. Et puis, à un moment, il y a commencé à avoir des personnalités qui ne sont pas noires, qui ont commencé à se les attribuer et parfois même à donner des noms. Donc ça, c'était par les médias que ça passait. Voilà, on leur, on, comme si les nattes collées qu'elles avaient sur la tête, qu'on a toujours fait et qui remontent à la période de l'esclavage et avant, bah, c'était elles qui les avaient produites, quoi. Donc une appropriation culturelle avérée, gravissime, parce que on sait bien que on n'aura pas le même traitement physique dans les médias quand on est perçu comme une femme noire qui a ces nattes-là, et quand on est une femme qui n'est pas noire et qui les porte et qui en plus prétend que ce sont les nattes à sa façon. Voilà. Donc Donc disons que je pense qu'il y a beaucoup de mieux, évidemment, on peut caler vers le mieux, mais le fond du problème n'est pas résolu. C'est-à-dire que le racisme est il continue d'être très, très, très important, et tout le monde, notamment ceux qui ne sont, enfin, tout le monde ne se considère pas concerné. Or, notamment sur cette question des femmes, bah, toutes les femmes devraient se dire qu'il y a un moment où, c'est plus compliqué pour certaines d'entre elles, d'entre nous, d'avoir le droit simplement d'exister sans qu'on soit remise en question, violentée, voilà, discriminée, parce qu'on est, parce qu'on est perçue comme, comme étant la sixième ou septième roue du carrosse, quoi. Parce qu'on est noire, ou parce qu'on a les cheveux comme ci, ou parce que, voilà.
Enfin, je pense que tu parles entre autres des Kardashian, mais il y a aussi beaucoup de marques de luxe qui ont fait défiler des mannequins blanches avec des tresses, ou alors qui font des boubous, ou tout un tas de choses comme ça. Et en fait, ce qui est problématique dans l'appropriation culturelle, c'est surtout que c'est des personnes qui vont gagner de l'argent avec ça et gagner aussi une forme de popularité et une bonne image, pendant que les personnes, comme tu dis, qui sont stigmatisées pour les mêmes choses, bah, continuent à l'être, en fait, continuent à être stigmatisées et ne gagnent pas d'argent avec cette culture-là, quoi.
Une chose, par exemple, sur la question du cheveu, qui peut paraître anecdotique pour plein de personnes, il faut quand même se dire qu'aux États-Unis, il y a le Crown Act qui est passé, parce que, on le sait, les femmes qui, par exemple, veulent arborer leurs cheveux coiffés en afro, donc pas en couronne, si on peut dire comme ça, en masse, sont encore discriminées et stigmatisées pour ça. Donc aux États-Unis, dans certains États, on leur dit qu'en fait, ça ne doit plus être un problème. Donc quand on voit qu'on en est là en 2019-2020, on voit bien que on n'a pas toutes et tous la même possibilité d'arborer nos cheveux tels qu'ils sont, en fait. Pardon, on a des cheveux qui sont épais, crépus, qu'on peut coiffer comme ça. Pourquoi, en fait, ça c'est pas possible, au nom de quoi, si ce n'est d'un standard hyper stigmatisant, hyper normatif, et qui prend comme modèle ultime et universel la blancheur et la police. Bon, c'est quand même dramatique. Donc, effectivement, il y a ce truc de... les gens vont ensuite reprocher aux autres de ne pas vouloir vivre ensemble, mais à l'heure qu'il est, c'est pas les personnes qui veulent porter ces coiffures-là ou qui veulent s'habiller comme elles le souhaitent qui sont, en fait, celles qui biffent le contrat du vivre ensemble. Au contraire, en fait. Et je pense que on est vraiment dans ce combat-là, dans la reconnaissance que il y a un moment où, en fait, la fétichisation, le racisme, l'exotisation des femmes, du corps des femmes et notamment des femmes noires, c'est quand même une question qu'il est urgent que les personnes blanches, qu'elles soient des hommes et aussi et surtout des femmes, prennent vraiment à bras le corps. C'est une vraie affaire, c'est sérieux, et on est vraiment en retard encore.
Ouais. Qu'est-ce qui aujourd'hui te donne de l'espoir, entre guillemets, genre, je sais pas, je pense à Luzen de Yakuza avec qui t'as fait une vidéo récemment, ou alors le livre de Mrs. Roots, Un million de papillons noirs, ce genre d'initiative ou de personnalité. Est-ce que t'as des exemples comme ça que tu peux recommander ou qui toi, en tout cas, te donne de l'espoir sur ces choses-là?
Bah, moi, ce qui me donne de l'espoir, même si après, ce qui est toujours malheureux, c'est qu'on cite quelques exemples. En fait, j'aimerais qu'il y en ait plus, beaucoup plus. Ouais. J'adore évidemment Luzen de Yakuza et le succès littéraire de Mrs. Roots, dont j'ai le prochain livre, bah évidemment m'enchante, parce que ça veut dire que il y a de la place, mais il faut se dire que elles se sont faites. En tout cas, je connais plus le travail de Luz pour l'avoir eu la chance de l'interviewer à plusieurs reprises et de la suivre très attentivement. Mais leur succès se fait à la force d'un. Enfin, j'observe en tout cas que dans l'industrie, son arrivée est très compliquée par rapport à celle à celle d'autres artistes qui ne sont pas Luzen de Yakuza. Ouais. Et donc moi, j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire que il faudrait que elles soient en train de paver la route pour d'autres artistes, ce soit plus simple d'être qui elles sont. Et la réalité, c'est que on reproche encore à Luz d'être très affirmée sur le fait qu'elle est noire. Mais le problème, c'est que elle l'est, et que ça a pu poser des problèmes à un moment au début, parce que voilà, on voulait la ranger dans telle catégorie, dans telle autre, et que on ne laisse pas encore ces artistes qui sont qui elles sont faire ce qu'elles veulent. Voilà, parce qu'on pose encore pareil, on a des regards, exotisants, fétichisants, etc., etc. Donc, moi, je suis très heureuse pour elle. Là, je vois qu'elle a fait un Tiny Desk avec NPR, qui est la radio nationale américaine. Donc, t'es là, ok, franchement, les choses se passent et c'est génial. Par contre, j'aimerais bien que, justement, on arrête de, par exemple, d'être misogynoire avec elle. Parce que même si, en apparence, tout va super bien pour elle, elle est magnifique, elle fait des campagnes pour des grandes marques de haute couture, elle est donc sur les front row dans les défilés, elle a un album qui a été remarqué, elle a fait beaucoup de télé, elle a été énormément vue partout et entendue, les gens sont vraiment touchés par sa musique, en tout cas ceux qui aiment vraiment la musique et le message qu'elle délivre, etc. Elle a des engagements, puis elle est belge, elle est cool, enfin voilà. Mais il se trouve que elle se fait insulter quand même. Il se trouve que on considère que parce qu'elle est très foncée de peau, elle a une peau magnifique, on peut se permettre de lui dénier sa beauté, son humanité. On voit qu'on n'a pas encore complètement réglé tout, et que malheureusement ce n'est pas qu'avec une figure qui déjà a beaucoup apporté et qui veut faire son truc que ça va se régler. Et moi, l'espoir que j'ai, c'est de voir la jeunesse. Ils sont, les gens qui sont après, qui arrivent après nous, mais même je vois ma petite sœur et tout, 18, 19, 20 ans comme ça, ils sont ouf. Et moi, c'est sur eux que je compte pour rester ces personnes qui, pour eux, c'est plus une question d'être gender fluide. C'est pas une question que de, alors pas pour tous, mais quand même, il y a une jeune génération qui profite de ces acquis-là pour dire ça suffit, on va arrêter écouter ma sœur noire quand elle vous dit qu'en fait vous êtes blessant, stigmatisant, discriminant. Des jeunes personnes qui savent qui ils sont, qui savent rester à la place où ils sont, qui savent aussi avancer, qui savent qui sont intelligents en fait, parce que on a besoin de ça, et ça c'est mon espoir, et c'est l'espoir aussi qu'après ils aillent aussi toutes les personnes noires, qu'elles aillent aussi dans les professions où elles peuvent aussi faire avancer les choses. Il n'y a pas que l'artistique, il y a aussi d'être médecin, d'être avocat en France, c'est aussi ça qui est important.
Non, c'est vrai, la nouvelle génération, ils sont beaucoup plus sans compromis, et en partie grâce à justement des figures comme ça, ou même comme tu parlais de Rihanna tout à l'heure, qui se positionne très clairement sur le racisme, etc. Et c'est vrai que on voit clairement la différence, ouais. Et il y a juste un dernier truc dont je voulais qu'on parle, qu'on n'a pas trop abordé, c'est le colorisme, parce que tu parlais de Luz, et effectivement, il y a eu un épisode avec une photo où elle était avec la rappeuse Shai, qui donc est plutôt, on dit light skin, elle est plus claire de peau que Luz, et il y a eu énormément de messages de haine en disant que en gros que Luz était moche parce qu'elle était plus foncée, quoi. Et en fait, ça c'est ce qu'on appelle du colorisme. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est que le colorisme?
Ouais, bah c'est voilà, c'est une discrimination et bah c'est un exemple parfait parce que moi je me rappelle cette photo, je l'avais vue il y a un moment et j'étais là trop cool. En fait, à la base, dans pour les gens qui suivent un peu les artistes et tout, on se disait waouh, peut-être les deux filles belges là, elles vont peut-être faire un feat ensemble, ça pourrait être très intéressant. Voilà, moi j'avais reposté déjà la photo en story quelques temps auparavant, puis elles étaient super, enfin voilà, genre super maquillées, bien lookées et tout, enfin trop belles quoi. Et genre quelques mois après, la photo elle ressort avec. Moi, j'ai pas compris en fait parce que techniquement, on a deux artistes qui, on va dire, sont dans deux voies parallèles, mais qui sont aussi belles l'une que l'autre, qui sont outspoken autant l'une que l'autre, qui sont belges, qui ont un vrai, qui ont une vraie connexion puissante avec le pays de leurs parents, les pays de leurs parents même, hein, dans le cas de Lucie, il y a deux. Enfin, je veux dire, et qui sont toutes les deux des égéries pour des grandes marques. Je veux dire, là où Shai, elle a fait des campagnes pour Givenchy, qu'elle fait la coupe de Vogue au Japon, bah Luce c'est égérie Adidas, je crois que c'est Chloé. Il y a aussi Louis Vuitton, enfin je veux dire ex aequo balle au centre quoi, en fait il y a même pas match et en fait plus cette photo c'était vraiment au contraire pour dire il y a pas de concu, on est là chacune à sa place. Non, en fait les gens, et on le voit, c'est ancré ça, le colorisme, c'est quelque chose effectivement qui remonte aussi à la période de l'esclavage, la colonisation. On le sait, c'est la hiérarchie des couleurs qui permet en fait de discriminer. C'est le préjudice du fait que bah plus tu serais foncé et moins tu serais digne d'humanité en fait. Et on voit bien que plus on est light skin dans l'esprit, donc clair de peau, dans l'esprit des personnes qui veulent faire des différences de traitement par rapport à notre couleur de peau, on voit bien que plus on se rapproche de la couleur claire, voire de la peau blanche, et plus on est digne d'attention, d'être aimé. C'est comme ça qu'a fonctionné le système esclavagiste et qui fait qu'il y avait des gens qui étaient éduqués par rapport à d'autres dans certaines zones. Parce que plus on était clair, plus on ressemblait en fait au maître. C'est terrifiant. Voilà. Donc quand on voit ce type de photos et que les seuls commentaires que les gens sont capables de faire sur des personnalités qui visiblement ils ne connaissent ni l'une ni l'autre, c'est de remarquer, de constater la différence de leur couleur. Déjà, c'est qu'on a un problème et que on voit que le système colorisme. En fait, le colorisme, je pense, structure nos rapports et ce dans toutes les sociétés. Faudrait pas penser que le colorisme, malheureusement, ne structure pas non plus certaines de nos sociétés africaines, notamment. C'est terrible. Et d'ailleurs, même le colorisme, plus on a la peau foncée, et ça a même été aussi le cas en France, avoir la peau foncée, à un moment, ça voulait dire être ouvrier, paysan, travailler dehors, prendre le soleil. C'était un signe de distinction, la peau claire. Donc, dans toutes les sociétés, sauf que, quand on est dans des sociétés où qu'on parle de personnes noires, le colorisme a trait complètement à cette partie de l'histoire qui est l'exploitation jusqu'à la mort du travail de ces personnes, l'esclavage. Et comment on classifiait, comment on jugeait digne une personne d'être humaine ou pas. Voilà, c'est terrifiant. Et effectivement, Luce, qui pourtant, on la présente comme quelqu'un de successful, elle est magnifique. Eh bien, elle a été ravalée à ce rang de « tu es beaucoup trop foncé pour avoir le droit d'être à côté d'une autre artiste qui, tout comme toi, existe, mais qui est plus claire. » On en est là, c'était 2020. C'était hallucinant. Voilà. Bah ça, c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité de nos vies, c'est la réalité de… Et en fait… heureusement, elle donne plein d'amour à ses consoeurs. Elle est pas du tout, dans ce truc de concu. Elle fait plein de trucs. Elle a pas besoin d'envier qui que ce soit. Et quand bien même, elle est pas comme ça. En tout cas, dans ce qu'elle dégage, etc. Mais je sais que il y a des gens qui viennent en DM être hyper violents. Et je pense qu'elle s'en prend plein la tête, principalement parce qu'elle est foncée de peau. Principalement. Voilà. Et c'est horrible. Et on est en 2020. Et donc ça, c'est vraiment le signe qu'il y a encore du boulot, mais qu'il faut que tout le monde s'y mette. Parce qu'il y a un moment où, déjà, il faut entendre les gens qui disent, j'ai été stigmatisée, parce que je suis noire. Moi, ça m'est encore arrivé. Je pensais que ça m'arriverait plus jamais de ma vie. Ça m'est encore arrivé il y a 3 jours d'avoir été stigmatisée parce que je suis noire et foncée de peau. Voilà. Il faut apprendre à se mettre à la place des gens qui vivent ça. pour comprendre, pour essayer de comprendre en tout cas.
Bah écoute, merci beaucoup pour cette interview, c'est très enrichissant. On peut te suivre sur les réseaux sociaux
Ouais, alors je suis vachement plus sur Instagram que Twitter parce que ce réseau social me rend chèvre, mais effectivement, je suis quand même sur Instagram, enfin sur Twitter, pardon, et sur Instagram, j'ai encore une page Facebook, et voilà, et puis après, dans les publications pour lesquelles j'écris, effectivement. Bah merci beaucoup en tout cas.
C'est la fin de cet épisode. Tu peux suivre Dolores sur Twitter et Instagram @DoloresBakela. Et tu peux me suivre aussi, je m'appelle Zazem @Zazem sur les réseaux. Merci de nous avoir écoutés. Si ça t'a plu, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes et à le partager avec ton entourage. À très vite pour un prochain épisode avec toute l'équipe. Et d'ici là, n'oublie pas que t'es une warrior de l'espace intersidéral et que personne ne peut t'enlever ça.